J'ai donc le plaisir de recevoir le député Philippe Latombe, qui, comme le rappelait Jean-Christophe, est l'auteur d'un rapport intitulé « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne ». Je rappelle aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez participer à notre conversation, soit au 09 72 51 55 46, ou sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton chat. Philippe Latombe, bonjour.
Bonjour.
Je vous propose de commencer par une question somme toute très classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît?
Philippe Latombe, je suis député de la Vendée. Je suis membre de la commission des lois et donc j'ai eu le plaisir de pouvoir être le rapporteur d'une mission sur bâtir et promouvoir une souveraineté numérique française et européenne, parce que la dimension européenne est aussi quelque chose de très important.
Entendu.
Dans ce sujet.
Et qu'est-ce qui vous donne une appétence pour ces questions-là? Pourquoi finalement
Parce que j'ai toujours, alors dans mon passé, avant d'être député, j'étais responsable dans un établissement bancaire et je fais pas mal de financement et notamment d'entreprises innovantes dans le domaine, ce qui n'est pas forcément toujours très facile. Et donc une fois qu'on a touché à la matière, on a très envie de continuer. Et donc en arrivant à la députation, à la commission des lois, il y a eu un gros travail qui a été fait sur le RGPD, la transposition du paquet européen en droit français. Et donc très naturellement, je me suis lancé sur ce sujet-là.
Entendu. Donc le RGPD qui est le Règlement Général pour la Protection des Données. Alors, si vous le voulez bien, avant d'aborder le fond de vos travaux sur la souveraineté numérique et sur votre proposition relative au logiciel libre, je pense qu'il pourrait être intéressant de s'arrêter un court instant sur ce qu'est une mission d'information. S'il y a une spécificité, et parce que c'est le cas de celle-ci, qu'elle soit initiée par la conférence des présidents des différents groupes politiques de l'Assemblée nationale, on sait que ce n'est pas toujours le cas, et puis comment ça s'inscrit globalement dans les travaux de l'Assemblée, qui sont bien plus finalement que la simple participation aux questions gouvernement, ce qu'on a plutôt tendance à voir, on va dire, habituellement.
Oui, alors la mission d'information qui est sous la conférence des présidents est une mission d'information très particulière, elle a une vocation très prospective. C'est en fait l'Assemblée est gérée par un président de l'Assemblée qui aussi regroupe autour de lui l'ensemble des présidents de groupe. Et il détermine chaque année un certain nombre de grands sujets sur lesquels ils veulent être éclairés et sur lesquels ils pensent que les députés doivent être éclairés pour préparer l'avenir. Et c'est à ce titre-là que la pandémie commençant et le fait que nous ayons besoin de recourir à l'ensemble du matériel numérique, a posé la question au président de l'Assemblée, au président de groupe, de comment est-ce qu'on pouvait assurer une certaine souveraineté. Et donc, ils ont décidé d'ouvrir une mission, ce qui est une mission d'une année. C'est un travail de longue haleine pour lequel il y a des moyens particuliers qui sont mis à disposition du rapporteur et du président. Et pour que ça soit totalement transparent, la mission est une mission qui regroupe à la fois l'opposition et la majorité. C'est-à-dire que systématiquement, le président est de l'opposition et le rapporteur de la majorité, ou inversement. Ce qui donne une certaine objectivité au travail et ce qui permet d'éviter les conflits, j'allais dire, politiques, pour se consacrer vraiment au fond du sujet et à l'ensemble du sujet. Donc ce qui a été le cas pour la mission pour laquelle j'étais rapporteur et le président, que je salue ici, Jean-Luc Warsmann, faisant partie de l'opposition, mais avec lequel on a travaillé vraiment en intelligence et sur lequel, voilà, le rapport, c'est vraiment ce travail de fond qu'on a pu mener d'un an avec une aide administrative de l'Assemblée.
Entendu. Alors, et qu'est-ce qui a fait que... pourquoi ce sujet de la souveraineté numérique? Et je pose notamment cette question parce qu'on sait qu'en 2019, il y avait déjà eu un rapport sénatorial sur ce même sujet de la souveraineté numérique. Plus récemment, la commission Affaires étrangères de l'Assemblée s'est penchée sur la question connexe des géants du numérique. Donc, pourquoi un nouveau rapport? Quel était votre angle d'attaque, si je peux m'exprimer comme ça?
Alors, le sujet est venu de la part du président, des présidents de groupe et du président de l'Assemblée, notamment parce que nous devions nous réinventer, nous, parlementaires, pour travailler éventuellement à distance et travailler de façon dématérialisée. Et quand on a fait l'ensemble du tour des solutions qu'on pouvait utiliser, on s'est rendu compte que des solutions pratiques qu'on pouvait mettre sur le site de l'Assemblée, il n'y en avait pas beaucoup, et notamment, elles étaient d'origine étrangère systématiquement. Pour pas les nommer, c'était une solution américano-chinoise que tout le monde connaît. Et ça a interrogé beaucoup notre capacité à pouvoir faire, dans le cadre d'une pandémie, travailler à distance, continuer à avoir des réunions, les rendre publiques le maximum, tout en utilisant des logiciels ou des solutions françaises ou européennes. Et c'est de là qu'est partie la mission, en se disant que, de plus, nous avions certainement des zones de fragilité pendant la pandémie, notamment auprès de nos entreprises et de nos hôpitaux, et on l'a bien vu avec les différentes attaques qu'il y a pu y avoir contre des hôpitaux, et c'est ce qui a généré la mission et l'angle sur lequel nous l'avons abordé. C'est absolument pas un angle sur lequel, contrairement à ce que, enfin, ou dans le même sens que celui que de l'autre mission sur les géants du numérique, la question n'est pas du tout de savoir si les géants faut les démanteler, pas les démanteler. C'était pas le sujet du rapport. Le rapport, il propose des solutions concrètes pour faire en sorte que nous puissions bâtir, ou en tout cas, alors certains disent retrouver, moi je pense qu'il faut la construire, une souveraineté. Ça a nécessité un gros travail de définition, on reviendra dessus. Et ça n'a rien à voir avec le travail, j'allais dire, des sénateurs, qui était un travail beaucoup plus prospectif, sans proposition concrète. Là, on a vraiment voulu tous avoir des propositions concrètes qu'on a mis dans le rapport en tête, qu'on a hiérarchisé en disant voilà comment est-ce que aujourd'hui nous pourrions, à court et à moyen terme, mettre en place des solutions pour pouvoir construire cette souveraineté.
Entendu. Et c'est intéressant, j'ai pas effectivement fait lien avec le fait que ce soit la pandémie qui a finalement généré aussi ce travail politique de mise en perspective peut-être de nos situations de dépendance. Et puisque vous parlez de définition, effectivement on parle beaucoup de souveraineté numérique, mais qu'est-ce que c'est ? Voilà, qu'est-ce que cette année de travail vous a permis d'identifier comme étant une bonne définition de la souveraineté numérique ?
Alors, la première certitude, c'est qu'il n'y a pas une seule définition, mais qu'il y a des multiples définitions. Et les définitions sont tellement multiples que ça dépend de savoir si on est dans le secteur privé ou dans le secteur public, ça dépend si on est français ou européen, ça dépend de la vision sociétale que peuvent avoir certains pays européens. Je vous donne un exemple, il y a deux pays baltes qui ont deux définitions, et pourtant ils sont voisins, qui ont deux définitions de la souveraineté totalement différentes. Il y a un pays qui est tellement américanophile que pour eux, la souveraineté, c'est tout ce qui n'est pas autre chose que américain. Ils veulent absolument que tout soit américain. Et le voisin, lui, dit bah, « Nous, c'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. Nous, on voit la souveraineté comme la capacité à pouvoir bâtir notre propre système informatique et nos propres solutions. » Donc, c'est vraiment une multiplicité de définitions qu'on a dû affronter. Pour en retenir une de façon très synthétique, et puis ensuite je renverrai au rapport parce que il y a une vingtaine de pages sur la partie de la définition, mais la souveraineté, c'est la capacité à pouvoir faire un choix, choisir sa dépendance, tout en conservant en permanence la capacité de refaire ce choix, c'est-à-dire de parler de réversibilité. À un moment, je peux avoir besoin, parce qu'il n'y a pas techniquement d'autre solution que de prendre une solution extra-européenne, mais je dois pouvoir avoir la capacité de migrer vers une solution française ou européenne si jamais elle émerge et qu'elle est au même niveau ou supérieure à celle que j'utilisais avant. Et c'est cette capacité en permanence à faire le choix qui est la souveraineté. C'est pas le repli sur soi, c'est pas systématiquement faire du recours à du produit bleu, blanc, rouge ou européen, parce que ça serait plutôt du souverainisme, mais encore j'aime pas beaucoup le terme. Mais c'est cette capacité à faire un choix, parce qu'à un moment, il faut qu'on puisse avancer et qu'il faut qu'on puisse lancer des projets. C'est pour ça qu'on a pris un angle dans le rapport. On est parti sur les données de santé, par exemple, en se disant ce qui est valable pour des données de santé, qui sont des données très particulières pour nos concitoyens, doit pouvoir se vérifier dans d'autres domaines. Donc on est parti sur les données de santé et on a interrogé le fameux HDH, le fameux Health Data Hub, en se disant pourquoi le choix de Microsoft. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a eu un choix qui a été fait et qu'on n'avait pas prévu la réversibilité. Et donc là, forcément, ça ne rentre pas dans le cadre de la définition de la souveraineté telle que je viens de l'évoquer. C'est que pour que le choix soit dit souverain, il aurait fallu que dès le départ, on regarde s'il y en avait plusieurs solutions. Le HDH nous dit qu'il n'y en avait qu'une, c'était Microsoft, peut-être. Mais que si une autre solution émerge, il faut pouvoir migrer, il faut pouvoir faire une réversibilité et partir sur l'autre solution, ce qui est aujourd'hui pas le cas. Et donc c'est cet exemple-là qui nous a permis ensuite d'aller interroger d'autres domaines du numérique, notamment au sein de l'État ou au sein des collectivités territoriales.
Je trouve très intéressant cette approche de se dire, enfin, de rappeler qu'il y a une multiplicité de définitions, parce que finalement, selon celle aussi qu'on va choisir, on va prendre une position politique qui va amener différentes réponses, donc forcément on se situe, et finalement c'est normal. D'ailleurs, ça m'évoque ce que disait Jean-Christophe à la fin de sa chronique, de l'importance aussi de savoir prendre de la hauteur, de changer de prisme de regard pour s'adapter justement à ce que l'on cherche à répondre et à se répondre comme enjeu. Est-ce que votre définition, je pense, est en fait assez proche de celle qu'on essayait d'avoir à l'April, qui est effectivement de l'importance de maîtriser la définition en fait de ce qu'on va considérer comme étant finalement le plus important, considéré comme être une bonne maîtrise, c'est la maîtrise des choix, je pense, et la meilleure peut-être manière de le synthétiser. Je vous rejoins là-dessus. Alors j'aimerais peut-être que vous souhaiteriez dire un mot général avant qu'on parte sur le logiciel libre.
Alors je voudrais revenir à ce qui a été dit par votre collègue en introduction. Dans la souveraineté, il y a quand même une notion de transparence. C'est extraordinairement important, et on voit que des pays européens ont réussi leur transformation numérique, pas simplement parce qu'ils ont utilisé des logiciels libres ou des logiciels sous licence, ou voilà, mais parce qu'ils ont développé une forme de transparence complète entre l'utilisation des données des logiciels et les citoyens. L'exemple qui a été donné tout à l'heure est un très bon exemple, Parcoursup. C'est extraordinairement important d'avoir l'intégralité de la transparence sur l'algorithme de Parcoursup. C'est un sujet qui est tellement important pour nos concitoyens, de savoir comment est-ce que les enfants vont être affectés post-bac, et c'est tellement viscéral qu'on a besoin de savoir quels sont les choix qui sont derrière. Et pour avoir les choix, il faut savoir comment fonctionne l'algorithme. Et je trouve ça un peu dommage, et on pourra peut-être en parler plus tard dans l'émission, mais on a rendu une partie de l'algorithme ouvert, mais on n'a pas ouvert les algorithmes locaux, par exemple. Et on voit bien que c'est aujourd'hui des algorithmes locaux qui génèrent beaucoup d'incompréhension auprès de nos concitoyens. Donc si on veut pouvoir avancer sur la numérisation de l'État, sur l'acceptabilité de cette numérisation par nos concitoyens, il faut à la fois des solutions, soit françaises, soit européennes, au maximum. On parlera des solutions libres ou sous licence, mais il faut aussi une énorme transparence. Et le billet de votre collègue est extraordinairement important, parce que ce qui est en train de s'ouvrir, c'est quand même cette prise de conscience-là. C'est qu'il faut ouvrir les algorithmes, et qu'il faut que les gens puissent comprendre et voir ce qu'il y a derrière.
Oui, car ce n'est pas un sujet strictement, il y a de la considération technique, mais c'est avant tout des questions politiques. Et si on veut être finalement présent pour la défense de l'idéal démocratique, voilà, je pense qu'on peut partager, ben, si c'est des sujets politiques, on doit tous avoir la possibilité de pouvoir s'y intéresser. On n'est pas obligé de tous maîtriser finalement ce qu'est de l'algorithmie, mais si on veut s'y pencher, si on veut pouvoir s'y intéresser, si on veut pouvoir participer à ces prises de décision politique, la transparence est un prérequis indispensable, effectivement. Alors... Justement, donc parmi les 65 propositions de votre rapport, même parmi les 30 propositions clés, si je me trompe pas, une en particulier a bien sûr attiré notre attention, la proposition 52, qui appelle à imposer au sein de l'administration le recours systématique au logiciel libre, en faisant de l'utilisation des solutions propriétaires une exception. L'April a évidemment salué dans son communiqué cette prise de position assez radicale et ambitieuse, qui pour nous rejoint la proposition d'une priorité au logiciel libre dans le secteur public que nous défendons depuis des années. J'ai envie de commencer par une question finalement assez générale. En quoi le logiciel libre doit être un élément constitutif d'une politique ambitieuse de souveraineté numérique? Mais en fait, je crois que vous avez déjà commencé à y répondre.
C'est l'idée de se dire qu'on peut à chaque fois faire un choix, et que ce choix, on peut le maintenir ou le changer. Dans le rapport, on n'a pas refait le rapport Botorel sur le libre. C'était pas l'objet du tout. Là, c'est d'être concret et de se dire qu'il y a une émergence aujourd'hui du logiciel libre. Il y a une volonté d'aller vers le logiciel libre, mais que cette volonté, elle, parfois, notamment au sein de l'administration, se heurte à des considérations très techniques et très... j'allais dire, de rapidité et d'efficacité, en disant, ben voilà, je prends une solution avec une suite bureautique ou une suite logicielle d'un Américain parce que ça marche, c'est facile. Et puis, il y a aussi, parce qu'on a eu dans les auditions des personnes qui nous l'ont dit, les entreprises le prennent, des solutions américaines, voilà, pourquoi l'administration ne le prendrait pas? En fait, il y a une espèce de concurrence ou de volonté de faire aussi bien que le privé, et donc on prend aussi les mauvais côtés. Et donc on s'est rendu compte que, et on l'a vu notamment au sein de l'éducation, qu'il y avait des utilisations de suites bureautiques, de logiciels, qui étaient uniquement pour des raisons de confort et de rapidité, alors qu'il y avait d'autres solutions qui existaient. Et donc l'idée, c'est de renverser la charge de la preuve. C'est de dire, on essaie systématiquement de prendre du libre, et on explique l'exception le jour où on en a besoin. On ne fonctionne pas à l'envers. On ne dit pas, il y avait du libre, mais il était moins bien que la suite sous licence. Non, c'est, on commence par voir ce qu'on peut prendre en libre, et si jamais ça ne marche pas pour des raisons très particulières, qu'on documente, et alors à ce moment-là, on peut aller vers du licence. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment avoir exprimé, et c'est ça qui est important, il faut que l'administration ait exprimé ses besoins dès le départ. Il faut qu'elle ait fait le travail de transformation de l'expression de ses besoins en qu'est-ce que j'ai sur le marché qui existe et qui permet de répondre à ses besoins, et en quoi le libre ne me permet pas de répondre à ses besoins tels que je les ai exprimés. Et puis ça a un deuxième effet, c'est que ça oblige les DSI dans les administrations systématiquement à penser libre et à penser développement. Parce que si on commence à simplement mettre le doigt dans « j'achète quelque chose sous licence », en fait, on se rend bien compte que c'est un peu une addiction, c'est un peu le sucre dans les sodas, c'est parce que j'ai de la licence, ben je vais ne pas faire de développement, et c'est la licence qui va faire des propres développements. Donc je vais devenir dépendant définitivement de la licence. Ce qui n'est pas acceptable, parce que c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que l'État puisse aussi innover, faire des développements, et c'est beaucoup plus facile de le faire avec du libre qu'avec des logiciels sous licence.
Et dans le futur, pour revenir à ce que vous disiez, soit libre de ses choix, de pouvoir changer, de pouvoir et de ne pas générer sa propre dépendance. Et puis, puisque vous disiez que certaines, dans les auditions que vous avez menées, de nombreuses auditions d'ailleurs, on peut quand même noter une différence importante entre administration et entreprise, c'est que les administrations sont tenues aussi d'une mission de service public, elles doivent répondre à des impératifs d'intérêt généraux, et là où moi je vous rejoins à 100% sur repartir dans le bon sens, c'est-à-dire que les libertés informatiques, la liberté d'user librement de son logiciel, de pouvoir en étudier les sources, de pouvoir les modifier, puis de pouvoir diffuser ensuite les modifications, répondent à des impératifs d'intérêt généraux. Et à partir de là, lorsque une administration étudie ses besoins, elle doit, dans la mesure du possible, répondre à ces impératifs généraux. Et en tout cas, dans un calcul proportionné, si elle ne peut pas être à cette hauteur-là, devoir s'en expliquer. Et je pense que ça, c'est effectivement important à rappeler. Ce n'est pas encore une évidence, parce qu'il faut repolitiser peut-être aussi cette question.
Effectivement, on a besoin de pouvoir, mais même nous, parlementaires, dans le rôle constitutionnel du parlementaire, il y a le contrôle de l'État, le contrôle de l'administration. Comment voulez-vous contrôler quelque chose pour lequel on n'a pas d'accès? On n'a pas accès à l'algorithme, on n'a pas accès à l'ensemble des développements tels qu'ils peuvent être faits, parce que ils sont dans une sorte de boîte noire qui n'appartient plus à l'État. Je donne un exemple, mais on peut reprendre celui de Parcoursup, mais on pourrait prendre un autre exemple, c'est celui des éventuels sujets qui pourraient arriver à un moment ou un autre. Je fais beaucoup de fiction, mais c'est pas si loin que ça à mon avis, de logiciels qui pourraient aider à la décision, notamment en matière de justice. Il y a aujourd'hui des boîtes qui travaillent là-dessus. Si l'État devait utiliser ce genre d'algorithme pour aider les juges à prendre des décisions, parce que ça rend les décisions plus rapides à rendre, etc., comment est-ce qu'on fait pour être sûr que ces algorithmes ne génèrent pas eux-mêmes la solution qui sera imposée à tous les juges? Et bien, la seule façon de le faire, c'est de pouvoir aller expertiser à la fois le logiciel et l'algorithme, enfin la forme et le fond du logiciel. Et bien, on a besoin aujourd'hui de pouvoir avoir accès à l'ensemble du processus. Et ça, aujourd'hui, avec des logiciels sous licence, c'est impossible, ou quasiment impossible. Puisque, en plus, ils sont même pas, pour la plupart, de droit européen, et sur lesquels on peut pas avoir forcément d'accès sur le cœur de la boîte noire du logiciel.
Et d'ailleurs, c'est vrai, effectivement, sans se prononcer sur l'opportunité de logiciels d'aide à la décision, je pense que ça permet aussi de mettre en avant quelque chose d'important, c'est que ça n'existe pas la technique qui serait neutre. Il y a des millions de façons de faire de l'algorithmie, des millions de façons de développer, et en fait, ça dépend aussi de la personnalité, finalement, de la personne qui va traduire en code ce qui est censé être l'application de la loi dans ces exemples. Et on voit déjà, en fait, dans les logiciels qui existent, du coup, que ces personnes amènent leurs propres biais de perception, et ça va générer des biais, par exemple, racistes. On a pu le voir, je crois, c'est aux États-Unis, où finalement, à condition égale, pour multiplicité de facteurs, les personnes dont la peau est noire étaient généralement beaucoup plus sujettes à... le logiciel recommandait des peines plus sévères. Alors, vous évoquiez le travail de votre collègue Éric Botorel, qui d'ailleurs, je crois, a participé aux travaux de cette mission. Et effectivement, il publiait un rapport sur l'ouverture des données publiques, algorithmes et codes sources. Nous l'avons d'ailleurs reçu dans Libre à vous le 19 janvier 2021, épisode disponible en podcast si ça intéresse nos auditeurs. Il y rappelait justement que l'ouverture des codes sources et plus largement la contribution au logiciel libre par les pouvoirs publics n'était pas du coup une question technique uniquement, mais bien un enjeu éminemment politique. C'est ce que nous disons justement maintenant. Et il appelait à développer l'utilisation des logiciels libres, et puis sa proposition de créer une mission logiciel libre au niveau interministériel pour donner corps à une politique publique sur le sujet a été reprise, et ça nous ne pouvons que nous en réjouir, par une circulaire du Premier ministre du 27 avril de cette année. Alors quel regard... Alors c'est vrai que vous n'aviez pas... Il n'y a pas de raison de refaire finalement ce qu'avait fait votre collègue, mais quel regard du coup portez-vous sur ce rapport, et plus particulièrement sur la circulaire qui va donner corps finalement à cette proposition, et dans quelle mesure pour vous la politique publique annoncée par le Premier ministre répond à l'enjeu que vous avez soulevé par un appel à systématiser le recours au logiciel libre?
Alors la première chose, c'est qu'effectivement, alors le rapport d'Éric, on l'a pas repris, on a repris le rapport d'Éric, on n'a pas refait le rapport. Il fallait pas le refaire. D'abord, le rapport d'Éric Botorel était très bien fait, et en plus il faisait partie de la mission. C'est aussi pour ça que c'était important. Je suis très très satisfait de la décision du Premier ministre de reprendre cette proposition et de la matérialiser. Là où moi je... Et c'est aussi pour ça qu'on a fait la proposition sur le logiciel libre de façon un peu plus stricte qu'au départ, c'est qu'il faut absolument que la circulaire soit suivie des faits. Et qu'une circulaire en tant que telle, c'est un bon signe. Mais le vrai bon signe, c'est quand systématiquement, dans toute la fonction publique, dans tous les ministères, dans toutes les collectivités territoriales, dans toute la sphère publique, on aura un accès total et une ouverture totale des algorithmes, des données, de tout. Et ça, aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on passe à l'échelle, il faut qu'on passe au concret. Et c'est ça qui sera le vrai thermomètre de la transformation de l'État et de l'ouverture de l'ensemble des administrations au logiciel libre et à l'open data et à l'open source. Je pense qu'il y a une envie fondamentale de l'administration de le faire. Il y a aussi une question de charge de travail qu'ils imaginent trop importante par rapport à ce qu'elle est. Et donc il faut qu'on puisse avoir des systèmes, il faudra que certainement l'État, via la DINUM, via d'autres différents services, les aide à acquérir ce réflexe et à permettre de le transformer de façon concrète. C'est aussi pour ça que la proposition qu'on a faite, qu'on a évoquée, c'est de dire que on recourt systématiquement au logiciel libre et on fait de la licence l'exception. Et ben, il faut que l'administration se dise que c'est libre, c'est en open source, en open data, c'est la règle absolue. Et il faut que tous les responsables de protection des données au sein de chaque ministère en soient conscients et qu'ils l'imposent. Voilà. Donc c'est la traduction concrète qui va être importante. Mais ça, c'est un très bon signe. Enfin, vraiment, c'est le très bon signe. Mais la vraie question, on revient sur Parcoursup. Ouvrir le logiciel et ouvrir l'algorithme de Parcoursup de façon nationale, c'était important. La transparence, c'est important. Mais si on n'a pas les algorithmes locaux, ça sert à rien. Donc il faut qu'on ait l'intégralité des algorithmes qui soient ouverts, par exemple. Et donc il faut un réflexe systématique d'ouverture.
Justement, et je voulais vous poser une question et ça m'a permis d'y revenir. Avoir votre lecture. Quand on parle justement des algorithmes locaux, on s'avère visiblement sur Parcoursup, dans certains cas, c'est pas forcément qu'un manque de volonté, c'est que c'est du coup compliqué. Mais en fait, c'est parce que ça n'a pas été pensé en amont. Mmh. En fait, tout ce que vous me dites me persuade. Finalement, on identifie un enjeu qui est fondamental. Et alors certes, c'est difficile, mais les changements de paradigme le sont souvent, et ça ne va pas nous empêcher d'avancer, sinon à quoi bon et de l'importance, en fait, c'est, on parle un peu, alors je prends en anglicisme le privacy by design, donc un petit peu de comment la protection de l'intimité de la vie privée doit être pensée en amont même, finalement, du développement de projet. En fait, pour moi, c'est ici la même chose. Il faut, avant même, intégrer dans l'ADN des prises de décision et de la manière dont s'équipe l'administration en termes de logiciels, penser logiciel libre, penser accès aux sources, penser le partage des sources, la contribution de l'État, et ainsi de suite. C'est peut-être ça qui manque.
C'est effectivement ça, et on revient sur un processus, mais qu'on pourra évoquer, qui est le processus d'achat, par exemple, de l'État. Ça nécessite forcément un travail en amont. Ça veut dire qu'il faut se poser, il faut réfléchir à quels sont mes besoins. L'expression des besoins est quelque chose d'absolument important, et transformer cette expression des besoins en une solution technique ou une solution qui corresponde à l'expression des besoins. Et ça, c'est un travail très important que certaines entreprises ont pris l'habitude de faire, mais que l'administration n'a pas forcément pris l'habitude de faire. Et donc, il faut retransformer, ça nécessite des changements de management assez importants, ça nécessite d'avoir des visions différentes et d'avoir une relation au temps qui est un peu différente. Quand on demande à une administration de faire quelque chose en urgence et qu'elle n'a pas la capacité à réfléchir, du coup, elle va forcément aller vers une solution assez facilement commerciale parce que c'est facile à mettre et à implémenter tout de suite. Alors que si on lui dit, ben voilà, on a un délai très court, mais il faut que ça soit réfléchi en interne dès le départ, quelles sont les perspectives, quels sont les projets qu'il peut y avoir au sein de l'administration, à ce moment-là, ils commencent à réfléchir et ils expriment des besoins, ils sont en capacité d'y répondre avec des développements en interne. Voilà. Donc je pense que c'est effectivement une modification du fonctionnement de pensée, de même que pour les entreprises, par exemple, qui est une culture un peu différente. La cybersécurité est quelque chose qui avait toujours été peu mis dans l'ADN des entreprises, dans un certain nombre d'entre elles, notamment des PME, alors qu'au sein de l'administration, la protection des données a toujours été quelque chose d'important. Donc voilà, c'est des changements culturels, et je pense que les deux, l'administration et le secteur privé, peuvent s'auto-alimenter et s'auto-éduquer là-dessus. C'est pour ça qu'il peut être important de faire des allers-retours pour un certain nombre de développeurs entre le privé et le public, pour pouvoir apporter des bonnes pratiques du public au privé et inversement.
Entendu. Écoutez, je vous propose de faire une courte pause musicale, qu'on puisse s'aérer les méninges et aérer, pour que les auditeurs aussi puissent s'aérer les oreilles, pardon. Avant peut-être d'aborder du coup les considérations importantes, et vous parlez du levier de la commande publique, et je pense qu'on pourra du coup s'y attarder, et puis l'enjeu de l'éducation, qui est, je pense, également extrêmement important. Alors, nous allons à présent écouter Nostalgia par Johnny Grimes. On se retrouve dans environ 3 minutes. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Nostalgia par Johnny Grimes, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY, et je vous invite à retrouver une présentation de l'artiste sur le site de nos amis d'auboutdufil.com.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April, et j'ai le plaisir d'échanger avec le député Philippe Latombe, qui a récemment publié un rapport sur la souveraineté numérique. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation via le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat, et je vois notamment des retours enthousiastes de la part de personnes qui nous suivent sur ce salon, qui trouvent l'échange de très bonne qualité. Je vois que Jean-Christophe nous invite peut-être à clarifier certains termes sur les logiciels sous licence commerciale, logiciels libres. On rappellera peut-être, si vous voulez peut-être répondre,
mais
rapidement, mais c'est vrai que rappeler que les logiciels libres, les logiciels libres sont des logiciels dont la licence, puisqu'ils sont sous licence libre, garantissent les quatre libertés fondamentales d'usage, d'étude, de modification et de partage, comme nous avons mentionné plus tôt, et que, alors nous, par opposition, nous parlons de logiciels privateurs, puisqu'ils privent de liberté, les logiciels propriétaires, qui sont les logiciels, on va dire, plus classiques, voilà, mais tous ces logiciels sont sous licence, puisqu'il y a le droit d'auteur, s'applique dans tous les cas. Alors, nous parlions justement donc de souveraineté numérique, de l'utilisation du logiciel libre ou pas, peut-être, de comment justement le systématiser et l'amplifier au sein de l'administration, et puis de votre proposition très concrète, hein, qui finalement sert de, si je le comprends bien, dans l'idée de donner une impulsion politique et d'appeler justement à se donner tous les moyens par rapport à un enjeu identifié, d'imposer donc au sein de l'administration le recours systématique au logiciel libre et de faire, je pense, des solutions propriétaires une exception. Et donc, du coup, j'aimerais, et vous aviez commencé à aborder ce sujet, que nous voyons un des leviers possibles pour donner corps à cette ambition, et c'est celui de la commande publique. En fait, de ce fait, se pose la question de comment les administrations acquièrent du logiciel. Alors, dans votre rapport, c'est une considération que vous semblez plutôt apporter sous l'angle d'une préférence nationale. Je crois que vous l'abordez dans une partie dédiée à ce qu'on appelle les deep tech. Alors, on pourra définir rapidement ce que c'est les deep tech, et je ne suis pas forcément en mesure de le faire moi-même, mais en gros, pour soutenir les tissus économiques locaux. Mais pour nous, je pense que l'exact, enfin pour nous à l'April, mais je pense que vous me rejoindrez, l'exact même raisonnement peut s'appliquer à l'ambition de systématiser le recours au logiciel libre, dont une large partie des entreprises sont en fait des TPE, PME également inscrites dans les territoires. Alors déjà, de manière générale, sans forcément spécifiquement parler de logiciel tout de suite, mais pour vous, quel est le rôle de cette commande publique dans une politique ambitieuse de souveraineté numérique ?
On a passé un gros moment sur la partie commande publique dans le rapport pour plusieurs raisons. Il y a des considérations totalement économiques. C'est qu'en règle générale, des entreprises, notamment des start-up, préfèrent avoir des clients que d'avoir des subventions, parce que l'effet en valeur ajoutée d'un client est beaucoup plus important que celle d'une subvention. Et que le rôle de l'État, s'il veut développer son tissu, est de devenir un très bon client, enfin devenir un client et même un très bon client de l'ensemble des entreprises qui travaillent sur le territoire national, mais européen. C'est là où je reviens sur quand on parle de terme de préférence nationale et pas forcément celui que je préfère. C'est pas très beau ce que je viens de dire. Mais parce que le rapport, il est vraiment sur la notion européenne, parce qu'il y a un ensemble de valeurs, et notamment porté par le RGPD dont on a parlé en introduction, qui fait que la zone Europe, plus exactement, est une zone où on partage les mêmes valeurs et les mêmes considérations. Pourquoi la commande publique est un vrai levier ? Parce que aujourd'hui, on a un système, enfin, on a deux systèmes très particuliers. On a quelque chose qui s'appelle l'UGAP. L'UGAP référence des dans le monde du numérique des logiciels, par exemple. Et les administrations peuvent acheter ce qu'on appelle acheter sur l'étagère, c'est-à-dire qu'ils disent, j'ai besoin de tel logiciel, il est référencé à l'UGAP, je peux l'acheter. Et puis ensuite, il y a pour des gros projets, il y a des projets avec des appels d'offres. Et dans la plupart des cas, les administrations qui utilisent l'UGAP utilisent l'UGAP pour acheter des solutions de logiciels, ce que vous appelez de logiciels privateurs, des logiciels sous licence commerciale, parce que c'est plus simple, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'était par exemple le cas du HDH, le fameux Health Data Hub, a utilisé la solution de cloud de chez Microsoft en l'achetant via l'UGAP, parce que la solution était référencée à l'UGAP. Et puis, dans tous les grands projets, le vrai souci, c'est que l'État, n'ayant pas forcément la capacité à faire son expression de besoin, utilise à recours à des entreprises qui sont des intégrateurs et qui font à la fois du consulting au départ pour définir le besoin de l'administration.
Du conseil,
c'est plus beau. Et une fois que le conseil est passé, ils deviennent prescripteurs de solutions. Et donc le conseil dévie forcément vers du commercial. Et dans la plupart des cas, c'est du commercial parce qu'ils ont des accointances ou parce qu'ils ont des connaissances avec un certain nombre de personnes, d'entreprises commerciales. Et donc ils vont proposer naturellement ces solutions-là. Et donc aujourd'hui, le levier de la commande publique est très important parce que au-delà des montants, ça permettrait aussi une transformation de l'administration, justement pour intégrer dès le départ dans l'expression des besoins tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, d'ouverture des données, d'ouverture des algorithmes, de développement futur. Et donc, si ce travail est fait par un prestataire extérieur, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit absolument fait par l'administration en elle-même. Et donc la commande publique, ce n'est pas simplement que une question de gros sous, c'est ce qui est important déjà, mais c'est aussi une question de transformation managériale et de gestion de projet au sein de l'administration. Et c'est parce que l'administration aura mis en expression de besoin, en priorité, la transparence, l'ouverture, la possibilité de pouvoir changer, migrer, faire des choix, comme on le disait dès le départ, différents dans quelques années. C'est ça qui doit faire l'expression de besoin et donc ensuite la recherche de solutions. Et donc c'est pour ça que c'était important pour nous de pouvoir avancer sur ce sujet-là. Puis le deuxième sujet, c'est de se dire aussi qu'il faut que l'administration soit dans la prospective. Et c'est là où on parle de deep tech, etc. C'est qu'aujourd'hui, les acheteurs publics, et c'est pas une critique, hein, les acheteurs publics sont un peu biberonnés au conflit administratif sur les appels d'offres. C'est-à-dire que pour eux, la principale crainte qu'ils ont, c'est que le marché public soit invalidé parce qu'ils ont raté la contractualisation à un moment où ils ont raté l'appel d'offres. Et du coup, ils ne font pas du tout de travail de prospection en amont, et de dire, ben voilà, peut-être qu'il y a des solutions qui pourraient être intéressantes à utiliser, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller faire du sourcing sur des solutions. Et aujourd'hui, les acheteurs, ils sont uniquement sur cette partie-là, ils ne sont pas en proposition de solutions en amont, et ils ne sont pas intégrés dans les projets au départ. Et donc, forcément, ils arrivent en fin de parcours à simplement devoir exécuter ce qui leur a été proposé par l'administration. Et donc, on a besoin d'avoir ces prospectives-là, d'avoir ce sourcing-là de la part des acheteurs publics, et donc qu'ils sachent à l'avance quelles sont les évolutions technologiques qui sont en cours, pour qu'ils puissent intégrer ça dans les futurs process. Et donc, c'est très important parce que du coup, ça veut dire qu'ils pourraient s'intéresser à des entreprises qui aujourd'hui sont juste à la phase entre la partie technologique et la partie commerciale, c'est la transformation entre la partie technologique et la partie commerciale, et donc qui pourrait transformer de façon assez importante le tissu du monde de la tech, notamment en Europe, où on peut avoir des solutions qui sont allemandes et qui sont très abouties et qu'on pourrait utiliser en France et inversement. Et on a besoin aussi, pour pouvoir ensuite faire en sorte que les entreprises françaises puissent être en capacité de s'exporter. Généralement, la plupart des pays nous disent « Mais est-ce que vous avez, entreprise Dupont, est-ce que vous avez des références nationales ? Est-ce que l'État français vous fait confiance ?» Et donc, c'est une sorte de preuve à l'export que l'État français, faisant confiance à l'entreprise, elle peut être fiable et peut répondre à des marchés en Europe et même ailleurs. Donc la commande publique a un effet de levier très très important.
Et vous avez balayé, je pense, assez largement, et on va pas t'arrêter peut-être sur quelques-uns de ces points. Et d'ailleurs, ce que vous avez dit m'a évoqué. Et en fait, ça fait écho pour moi. Nous avons reçu donc Éric Botorel qui parlait déjà de ce sujet. Nous avons également reçu Henri Verdier, qui est donc ambassadeur pour les affaires numériques. Et les deux, et en fait, je pense que vous les rejoignez justement là. En fait, on mesure bien l'importance au sein des administrations. Pour les agents de monter en compétence aussi sur ces sujets. On a besoin d'expertise pour être en mesure aussi de donner corps dans les administrations elles-mêmes aux ambitions politiques voilà, d'intégrer. Alors, ça ne veut pas dire forcément que tous les développements doivent être faits en interne, mais il faut qu'il y ait l'intelligence moins nécessaire pour pouvoir exprimer les choix. En fait, on y revient, les choix techniques pour répondre aux impératifs politiques.
On est sur une technologie qui bouge beaucoup. L'informatique des années 90 n'est plus du tout l'informatique telle qu'on l'a aujourd'hui. Et donc on a besoin d'avoir des compétences qui évoluent. Et la meilleure façon de faire évoluer les compétences, c'est soit d'attirer les talents dès le départ, et pour ça il faut avoir des grilles de salaire qui permettent de le faire, ce qui n'est pas forcément évident, et on le voit notamment, on a fait un focus dans le rapport sur la partie sécurité intérieure. Avec la DGSI, avec d'autres agences, l'ANSSI, etc., les grilles de salaire ne permettent pas forcément systématiquement d'attirer les talents comme on le voudrait, parce que des grosses entreprises privées payent beaucoup plus. Et puis, il y a la question de l'actualisation des connaissances. Et donc, la vraie question, c'est quand on rentre dans l'administration, on a plutôt tendance à ensuite devenir... on était expert au départ, on devient ensuite responsable d'équipe, responsable de service, et on lâche un peu la technique, et puis à un moment ou à un autre, on, je sais pas pourquoi, il y a une sorte de plateau qui fait qu'on a perdu une certaine forme de technicité, qu'on est moins ouvert forcément au changement, parce qu'on a pris, on n'a pas l'habitude d'être dans quelque chose qui change, etc. Et donc de temps en temps, il pourrait être intéressant de faire des allers-retours entre le privé et le public. Là, je ne parle pas du tout de hauts fonctionnaires, mais de techniciens, de personnes, d'ingénieurs, qui du coup, sortant de l'administration, vont se former dans le privé à de nouvelles techniques, des nouvelles technologies, et reviennent dans l'administration pour les réinjecter, enfin, je ne sais pas comment dire ça comme ça, mais réinsuffler ces nouvelles technologies. Et le passage en sens inverse de l'administration vers le privé permet aussi aux entreprises privées de se rendre compte de ce qui est la gestion de projet du domaine public et de l'administration. Et donc ça permet d'avoir des échanges et de pouvoir mutualiser des bonnes pratiques.
C'est intéressant, ça pourrait être un peu polémique d'ailleurs cette idée, parce qu'on voit parfois, on reproche parfois des phénomènes de porte-tambour, c'est-à-dire de ces passages. Donc on voit aussi l'importance peut-être d'encadrer ça, je veux dire, je n'y vois pas forcément intrinsèquement un problème, mais... on a pu constater quand même des critiques faites par certaines de ces pratiques, alors que je trouve vos arguments également convaincants dans ce que ça peut apporter également dans...
S'il faut simplement l'encadrer, ça s'encadre.
Oui, bien sûr.
C'est assez facile. On peut y mettre des limites. C'est pas le souci principal de se dire, bah, puisque j'étais dans la fonction publique, puis je suis parti dans telle entreprise, et puis quand je vais revenir dans la fonction publique, je vais faire la promotion de telle entreprise. Non, si j'ai les garde-fous dont on parlait tout à l'heure, en disant systématiquement on privilégie le logiciel libre, ça limite un peu le risque que vous évoquiez.
Et vous devancez exactement ma question suivante. Effectivement, puisque le logiciel libre, on ne parle pas sur des solutions spécifiques et strictement commerciales, mais bien en fait de projets qui sont des communs informationnels et qui bénéficient à toutes et tous. Et je crois que vous avez en fait aussi évoqué comment ça faisait partie de ce levier de la commande publique. Est-ce que vous avez pu évoquer comme étant le soutien à des écosystèmes d'entreprises du numérique, et je pense que dans la grille de lecture qu'est celle de l'April, je pense qu'on peut percevoir plus spécifiquement que c'est un enjeu à ce que les pouvoirs publics soutiennent l'écosystème du libre en général, c'est-à-dire au-delà des entreprises qui constituent une partie importante des communautés qui se construisent autour des différents projets logiciels. C'est vraiment ce qui serait intéressant, c'est développer un soutien au logiciel libre en tant que commun informationnel, et j'ai l'impression que ce qui serait important, c'est que de sortir d'une logique d'une forme de consommation passive de ce que sont les outils logiciels, mais à rentrer, et en fait c'est l'étape suivante après l'ouverture, c'est la contribution à ce que finalement les pouvoirs publics soient vraiment des contributeurs, des acteurs, que ce soit à travers les agents, que ce soit à travers les moyens qui sont donnés, à travers les politiques menées, des contributeurs qui font vivre aussi, qui font vivre les projets logiciels qui sont finalement offerts au bénéfice de tous, et on voit bien après les effets boule de neige positifs que ça peut avoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors, oui, c'est exactement l'objectif, c'est de se dire que ça a un effet d'entraînement très important. Il ne faut simplement pas oublier deux choses. La première, c'est que l'État français, ce n'est pas simplement qu'une administration centrale. C'est aussi beaucoup de collectivités territoriales ou de grosses collectivités comme par exemple les régions, et pour lesquelles cet effet d'entraînement est un effet d'entraînement qui n'est pas encore suffisamment fait. C'est-à-dire que c'est parce que l'État imposera un certain nombre de standards, un certain nombre de règles au sein de ses administrations, que ces collectivités locales-là seront obligées de se plier aussi à ces standards pour pouvoir communiquer avec l'État central. La deuxième chose, c'est que l'État, c'est une commande publique très importante en volume, mais c'est aussi très concentré sur des projets de grande taille. Alors que les collectivités, c'est une manne aussi importante, mais sur des projets qui sont de taille beaucoup plus petite. Et donc on a deux... Ça veut dire que la commande publique s'adresse à deux types d'entreprises un peu différentes. L'État peut s'adresser à des PME sur des sujets très particuliers, mais elle aura quand même besoin, vu l'ampleur de la commande et des chantiers, d'avoir des entreprises d'une certaine taille, qui feront appel à des sous-traitants peut-être différents, mais il y a quand même un volume important, une concentration importante. Alors que les collectivités, elles peuvent faire appel à des entreprises de taille beaucoup plus petite sur leur territoire. Et donc on voit que la commande publique, c'est à la fois un outil pour aider l'ensemble du monde de la tech et du numérique, mais c'est aussi une capacité à pouvoir gérer l'espace et de permettre d'avoir des entreprises au plus proche des citoyens. Donc c'est un effet important pour éviter des concentrations trop importantes de start-up ou d'entreprises du numérique au sein des grandes métropoles. Et on va avoir besoin d'avoir des entreprises de plus en plus, de taille beaucoup plus petite, mais au plus proche de nos concitoyens, au plus proche de la mairie, pour lequel ils assurent le système informatique, parce que c'est de là que viendront les réponses pour nos concitoyens sur la cantine, sur un certain nombre de choses. Et donc c'est l'ensemble de la commande publique sert à ça. C'est un effet d'entraînement, certes, mais c'est aussi un effet de réimplantation du numérique et des entreprises au plus proche des citoyens.
Du coup, je vais faire un peu peut-être de promotion. Alors, je pense à une solution logicielle libre, mais qui est un exemple parmi d'autres. Et je crois qu'on avait déjà reçu, on mettra en référence si c'est bien le cas, la solution OpenMairie. Et typiquement, on a finalement, qui est donc une suite de différents logiciels métiers pour les collectivités municipales. Et donc qui existe voilà, de manière standardisée. Et ensuite, les entreprises à l'échelle locale vont pouvoir travailler avec les collectivités pour répondre plus spécifiquement à leurs besoins, d'adapter aux spécificités locales. Et ce que vous disiez m'évoque aussi finalement un autre enjeu qui est, c'est le même, c'est l'équilibre entre centralisation, et on voit très bien l'importance effectivement de développer des standards qui soient effectivement les mêmes pour tout le monde, et en même temps une forme de décentralisation pour pouvoir aussi respecter les spécificités locales, permettre aux agents d'apporter leur savoir-faire spécifique par rapport à leur propre métier et tout cet équilibre-là, voilà, de ne pas avoir trop un état préconisateur qui dicterait contre vents et marées une attitude à suivre et qui est au détriment finalement voilà, des spécificités locales.
Mais il peut y avoir c'est important ce que vous dites, c'est que l'informatique et le numérique doit aider l'être humain, aider l'homme. C'est pas lui qui doit tout décider. Donc c'est pas à coup de standard qu'on pourra toujours tout faire. Une mairie de bord de mer n'a pas forcément les mêmes besoins en informatique et en numérique qu'une mairie de montagne. C'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas forcément les mêmes besoins, c'est pas le même transport, le même type de transport, donc il n'y a pas forcément les mêmes besoins. Donc il faut absolument avoir cette possibilité de s'adapter à la spécificité locale. Pour autant, il y a un certain nombre de règles qui sont les mêmes pour pour toutes les mairies, c'est la comptabilité publique. Il faut qu'il y ait une règle commune sur la comptabilité publique et qu'on puisse avoir un système informatique qui permette aux mairies de discuter avec les directions des impôts, qui soit la même, pour gagner en efficacité. Et là, on a besoin que l'État définisse ce standard. Mais voilà, le logiciel libre permet de faire des adaptations. C'est aussi ça son avantage, c'est pour ça qu'on le préconise au sein des collectivités, des préconisations sur des problématiques locales très importantes à certains endroits qui ne le sont pas du tout 150 km plus loin.
Alors on précise, et je remercie Apitux, qu'effectivement l'émission sur OpenMairie est en projet, ce n'est pas une émission qui a déjà eu lieu, donc on ne manquera pas de communiquer dessus quand la date sera fixée. Oui, et du coup, effectivement, on voit l'importance de porter matériellement au cœur des administrations sur les usages quotidiens, de permettre cette adaptation. Mais on pense aussi, et je voulais avoir votre avis là-dessus, donc l'April, je disais, défend historiquement une priorité au logiciel libre et au format ouvert dans le secteur public. Et donc, à ce titre, on pense qu'il est important qu'il y ait une inscription d'un principe normatif fort dans le droit de la commande publique, donc un principe de portée générale qui serait une priorité au logiciel libre et qui ne dit pas autre chose finalement que ce que suggère votre proposition. Quelle est votre lecture sur votre question ? Est-ce que vous pensez que cet impératif, enfin, de poser un principe normatif fort est...
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'on doit aller simplement, enfin, on doit aller maintenant au-delà de la simple préconisation. On doit aller dans mettre un principe, qui est le principe, c'est d'abord le logiciel libre, et ensuite, si jamais ça ne marche pas, et on documente pourquoi ça ne marche pas, on va se faire une solution de type commercial propriétaire, en gardant toujours la possibilité de pouvoir rebasculer sur du libre, si jamais le libre a une évolution. C'est le principe de la fameuse réversibilité ou de continuité du choix qu'on doit pouvoir avoir. Il peut y avoir des règles, il peut y avoir des cas dans lesquels c'est pas possible d'utiliser du libre, mais ça le sera peut-être dans 3 ans. Donc ça veut dire qu'il faut que tout ce qui va se passer entre maintenant et dans 3 ans, on soit en capacité de pouvoir migrer, basculer sur du logiciel libre dans 3 ans. Et ça aujourd'hui, ça nécessite... Là encore, un changement de paradigme au sein de l'administration, c'est qu'il faut faire l'expression des besoins, et il faut que cette expression des besoins soit séquencée dans le temps. Et qu'on sache que, aujourd'hui, voilà le besoin immédiat, voilà comment est-ce que j'y réponds, mais que si dans un an, j'ai une solution qui commence à émerger, je vais re-réfléchir à pouvoir l'intégrer, et que le jour où ça sera possible dans 3 ans, je le fais. Et donc ça nécessite de réinvestir le temps. Et ça, c'est quelque chose qui, dans notre société, est un peu différent. On est dans le temps court, le temps très rapide, alors que sur des projets de ce type-là, le fait d'avoir de la réversibilité à chaque moment nécessite de pouvoir repenser le temps en se disant « il faut que je me mette des points d'étape, il faut que je surveille ce qui va arriver comme proposition en logiciel libre pour voir si, du coup, je ne suis pas en capacité de pouvoir migrer ». Je reviens sur le HDH, c'est ça qui nous a inquiétés. C'est le fait que, à un moment ou à un autre, il n'y a pas eu d'étude de réversibilité. Et donc ça veut dire qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on est obligé d'y rester. C'est pas comme ça qu'on voit les choses, c'est pas comme ça que l'administration doit les voir, et c'est d'ailleurs pas comme ça que la circulaire Castex le prévoit. Donc il faut pouvoir avoir de la réversibilité à chaque fois.
Et je trouve extrêmement intéressant ce que vous dites sur ce rapport au temps, et je pense qu'on gagnerait vraiment effectivement à se réinscrire dans cette perspective. Alors, je vois que le temps avance, et j'aimerais quand même qu'on ait le temps d'aborder le sujet que j'évoquais sur l'éducation. Ce que je trouve très intéressant aussi dans votre rapport, c'est que vous avez, dans la manière dont fonctionne finalement le sommaire, vous avez fait de l'émancipation individuelle un des enjeux constitutifs de la souveraineté numérique, ce qui n'est pas toujours le cas, je trouve, sur ces débats qui ont tendance peut-être parfois à se centrer sur les enjeux économiques et industriels. Et je trouve que de remettre cette considération de l'émancipation individuelle extrêmement importante, parce qu'effectivement, nos libertés fondamentales, nos relations avec les pouvoirs publics, nos intimités dépendent de plus en plus d'outils informatiques. Et il nous semble donc évident que ces questions doivent être centrales à toute politique publique cohérente menée sur ces enjeux. Et au centre de tout ça, bien sûr, l'éducation, alors déjà dès le premier âge, étudier le logiciel libre en tant qu'outil, certes informatique, d'étudier avec des logiciels libres, mais aussi comme objet d'enseignement, c'est-à-dire développer un esprit critique sur le logiciel libre. Pourquoi pour vous cette question de l'émancipation individuelle en général, puis plus particulièrement de l'éducation, a-t-elle centrale finalement?
Alors on ne peut opérer ses choix en tant que citoyen que si on connaît et si on sait pourquoi on va s'exprimer et ce pourquoi on s'exprime. Et donc forcément, si je veux pouvoir dire à l'administration que ce qu'elle fait ne va pas, il faut que je sois en capacité de comprendre ce qu'elle a fait et pour ça j'ai besoin d'avoir un certain nombre de bagages. Et c'est valable aussi pour les réseaux sociaux, c'est valable pour pas mal de choses dans le numérique. Il faut qu'on réapprenne à l'ensemble, enfin collectivement, que l'ensemble de la population sache de quoi elle parle, qu'elle sache ce que c'est qu'un algorithme. Parce que pour certains, un algorithme, c'est une sorte de boîte noire qui donne un résultat blanc ou noir à l'arrivée. Non, c'est pas ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une suite de choix logiques à partir d'un certain moment qui ont été faits par des hommes avec des biais, parce que biais ratio, etc. Mais c'est une suite logique. Et il faut comprendre pourquoi, il faut arriver à retrouver la logique. Et puis il faut comprendre ce que c'est que les libertés fondamentales dont vous parliez, comment est-ce qu'elles s'appliquent dans le cadre du numérique. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai le droit de demander? Quels sont mes droits minimums sur le numérique? Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de nos jeunes, et c'est, quand je dis le mot jeune, c'est il n'y a pas d'âge de fin, parce qu'on est tous jeunes en numérique, mais il y a un manque de bagage. Et comme en plus c'est un domaine dans lequel les innovations techniques et les innovations commerciales vont très très vite, il faut se réactualiser en permanence sur ces choses-là. Et donc l'émancipation individuelle, c'est surtout d'abord l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Qu'est-ce que c'est que du code? Ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir un codeur. C'est simplement de savoir à peu près ce que c'est et comment ça fonctionne. Un ordinateur, c'est pas simplement un écran avec un clavier. Il y a quelque chose derrière. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Mais pas forcément de façon très précise, mais de façon au moins dans les grandes masses. Comment ça fonctionne? Pour que derrière, on puisse passer du consommateur au consommateur. C'est que la personne ne soit pas simplement dans la consommation du numérique, mais aussi dans la capacité à comprendre et donc à exprimer ses choix tels qu'il les veut. Je vous donne un exemple qui est assez marquant. Quand une personne, vous l'interrogez dans la rue en lui disant « Est-ce que vous voulez que l'État puisse faire de la reconnaissance faciale ?»« Ah bah non, je veux pas, mon visage m'appartient, je veux pas. » D'accord. Cette même personne, elle va acheter un nouvel ordinateur, et pour ouvrir son ordinateur, on va lui demander de prendre une photo, parce que ça va être beaucoup plus simple, dès qu'elle va ouvrir l'ordinateur, que la photo, par de la reconnaissance faciale, permette de débloquer l'ordinateur. Et quand vous lui dites bah, « il y a une incohérence entre les deux », ah non, c'est pas la même chose. Bah, si, en fait, le principe de base, c'est la même chose. C'est simplement votre perception de ce que c'est que la reconnaissance faciale et le chemin commercial qu'on vous a imposé en achetant l'ordinateur pour faire en sorte que vous puissiez l'ouvrir avec simplement votre photo, qui fait que vous n'avez pas l'impression que c'est la même chose. Et donc ça aussi, ça c'est quelque chose sur lequel il faut faut que le citoyen puisse s'exprimer, mais pour ça, il faut qu'on lui explique ce que c'était que la reconnaissance faciale, comment ça fonctionnait, etc.
Le savoir, c'est du pouvoir. Mais alors du coup, peut-être, et je trouve votre exemple intéressant, on peut aussi poser que, comme postulat, que dans un cas, finalement, il perçoit immédiatement la portée politique de la question, puisqu'il s'agit, voilà, donc l'État, donc on peut imaginer tout de suite la portée en termes de surveillance, d'atteinte à ses libertés, que dans l'autre cas, c'est finalement, on rentre dans le geste banal, quotidien, banalisé, de consommation, et finalement, l'aspect politique et l'impact politique de son choix ne lui apparaît pas forcément. Et là où je vous rejoins absolument, c'est que justement il faut redonner aux personnes le bagage culturel de savoir basique, enfin basique, c'est pas péjoratif, je vais pas utiliser le terme de manière péjorative, mais le minimal de connaissances pour pouvoir aborder de manière émancipée en tant que citoyen à part entière finalement aussi le monde dans lequel on évolue, quoi.
Alors il faut lui donner deux choses supplémentaires. Il y a le bagage et puis ensuite il y a la transparence, on a déjà parlé.
Tout à fait.
Et puis il faut lui donner du résultat concret. Quand on a interrogé un certain nombre de pays qui ont mis en place des solutions numériques très importantes, je pense au Luxembourg, je pense à Monaco, je pense à l'Estonie, en fait, ils ont fonctionné en disant aux citoyens, voilà ce à quoi ça va vous servir. Concrètement, voilà ce à quoi ça va vous servir tout de suite. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire une carte nationale d'identité numérique. Pourquoi ? Bah parce que comme ça, vous pourrez avoir accès à tous les services publics dans 99% des cas de chez vous avec un ordinateur sans avoir besoin de redonner l'ensemble de vos informations. On va éviter les redondances. Ça permet par contre de mettre sur un serveur commun, par exemple, votre déclaration de revenus qui va servir ensuite à calculer le coût de la cantine de l'enfant, le coût du transport parce que vous habitez bien dans la bonne ville, donc on n'a pas besoin de vous le redemander. La contrepartie, c'est que dès que l'État a besoin d'une information, vous savez qui a eu accès à l'information. Donc il faut leur donner un bagage, à quoi ça sert, il faut leur donner une vision concrète de ce à quoi ça va leur servir dans leur quotidien, et il faut leur donner de la transparence. Et c'est avec ces trois bagages-là, ces trois outils-là qu'on arrivera à avancer. Mais l'éducation est absolument nécessaire parce qu'il faut comprendre les principes technologiques de base. Ce que c'est que la reconnaissance faciale, à quoi ça sert, comment est-ce que fonctionne un ordinateur, c'est quoi un réseau social, comment est-ce qu'on sort de la spirale, de la sorte de caisse de résonance des réseaux sociaux. Ben, quand vous posez la question à Aurélie Jean, elle vous dit, ben, moi, spécialiste des algorithmes, je sais qu'il faut de temps en temps interroger un sujet que je n'ai pas l'habitude d'interroger, parce que du coup, je casse l'algorithme, et il va me donner des informations beaucoup plus larges pour essayer de se recentrer ensuite. Et ben ça, faut l'apprendre dès le plus jeune âge aux enfants pour qu'ils puissent avoir cette haute capacité à faire de la critique. Et critiquer, c'est pas simplement râler dans un coin en faisant des manifestations. Critiquer, c'est aussi dire ça, je l'interroge, est-ce que je suis d'accord, pas d'accord, et est-ce que je veux ça pour moi ou pas. Et c'est cette capacité de critique-là qu'il faut qu'on réapprenne à nos enfants à l'ère du numérique.
Je ne peux être que d'accord et je ne vous demanderai pas de réagir, mais pour taquiner, j'espère que certains de vos collègues députés entendront aussi votre appel sur, voilà, sur certains projets de loi, notamment, ça a pu être discutable. On arrive, il nous reste à peu près 2 minutes. Voilà, peut-être une question, une double question, vous répondez à celle qui vous plaît davantage. D'un côté, quelles sont finalement les suites de ce rapport, vos attentes? Et puis, si une personne lisait votre rapport, est-ce qu'il y a une chose en particulier que vous aimeriez qu'elle retienne finalement?
Alors, je vais essayer de répondre aux deux de façon très rapide. La première, c'est que je suis très heureux de pouvoir être là aujourd'hui parce que c'est un début de la suite du rapport, que de pouvoir d'abord en parler, exprimer les idées qui sont dedans et montrer à pourquoi est-ce qu'on a retenu ces propositions et en quoi elles sont concrètes. Qu'est-ce que moi je souhaite retenir de... Enfin, ce rapport, il est pas fait pour caler une porte. Il est épais. Il fait 3 tomes. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu que l'ensemble des auditions puissent être répercutées dans les 2 derniers tomes, pour qu'on n'ait pas à refaire le travail qu'on a fait. On veut essayer de faire en sorte que ce qui a été fait dans ce rapport puisse servir à d'autres, que puisse servir à des universitaires, que puisse servir à qui veut. Et je ne suis pas propriétaire de ce rapport. C'est-à-dire que toutes les propositions qui sont dedans, si quelqu'un veut les prendre pour en faire un nouveau projet de loi ou quelque chose, ça sera avec le plus grand des plaisirs. Parce que je pense que c'est ça l'important, c'est que ce rapport puisse avoir une vie après le rapport et qu'il se transforme, qu'il se porte dans la vie quotidienne et dans les futurs projets de loi. Et c'est là où moi, mon travail maintenant, ça va être de prendre mon bâton de pèlerin, d'aller voir ministère après ministère, d'aller voir DSI après DSI pour leur dire, bah voilà, c'est ça ce vers quoi on souhaite aller. Et puis c'est d'essayer de convaincre le plus possible mes collègues députés et sénateurs que dans chacun des projets de loi qui arrivent, il faut qu'on pense à ces préconisations pour pouvoir les intégrer.
Merci beaucoup. Donc, Philippe Latombe, député de Vendée et auteur d'un rapport intitulé « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne ». Merci de nous avoir consacré notre temps et meilleur courage et meilleurs vœux pour la mission du pèlerin.